Que vous apporte le sport dans votre vie? Nous avons tous notre réponse, mais la réponse que m'a faite un jour Virginie fut tellement incroyable que je voulais qu'elle la partage avec nous. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Virginie et de comment elle est devenue une coureuse malgré une sclérose en plaques et son obésité. Et pourquoi elle est en partie à son alimentation cétogène. Et vous allez constater que ce n'est pas qu'une victoire physique, mais c'est aussi une victoire mentale et une autre manière d'aborder sa vie. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Ce n'est pas la première fois que nous abordons la sclérose en plaques dans ce podcast. J'avais notamment invité Sophie, capitaine de la team Ruban Bleu, pour nous parler de son engagement. La SEP est la plus commune des maladies neurologiques du jeune adulte et la deuxième cause de handicap chez le jeune adulte après les accidents de la route. On dénombre ainsi 4000 nouveaux cas par an. Les premières manifestations de la sclérose en plaques interviennent la plupart du temps entre 25 et 35 ans. Cette maladie peut prendre tellement de formes différentes et le constat, c'est que l'activité physique est indispensable pour l'organisme et peut avoir un effet bénéfique sur les patients atteints de sclérose en plaques. Pour Virginie, il n'y a pas que le mouvement, mais aussi l'alimentation cétogène qu'elle a adoptée depuis 6 ans qui a été très très efficace. Souvent décriée, l'alimentation cétogène lui a permis de sortir de l'obésité, de reprendre le sport alors qu'elle marchait avec une canne, fut en partie paralysée, d'avoir une meilleure santé, une meilleure immunité, une meilleure estime d'elle et bien d'autres choses que vous allez découvrir au fil de cet épisode. Et maintenant, elle caresse le rêve de pouvoir courir un semi-marathon, même si cette année, vous allez comprendre, qu'elle n'a pas pu le faire comme elle le voulait. Et tout ça avec des bilans sanguins parfaits. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours, comment elle a repris le sport, comment elle est devenue keto, en quoi ça consiste pour elle, comment elle s'est rendue compte de la quantité de glucides qu'elle mangeait chaque jour, et vous allez voir que c'est très étonnant, mais elle a tout retracé. La difficulté aussi qu'elle a rencontrée en cuisine pour adapter ses recettes, et pourquoi maintenant elle en a fait un livre de cuisine, de recettes, pourquoi le régime cétogène est efficace pour elle, les ajustements qu'elle peut faire, et notamment le passage au low carb par moment. Et nous avons parlé aussi de tous les bénéfices, directs et indirects, ainsi que de son changement de vie professionnelle. Virginie est pétillante, pleine de belles ondes, mais aussi très lucide sur son parcours, et sans volonté de faire passer tout le monde à l'alimentation cétogène. En fait, elle constate, elle, ce qui a marché pour elle, elle partage ses astuces, ses conseils, son changement, son évolution. Et vous allez découvrir aussi le petit défi qu'on vous lance à la fin. Si vous voulez passer en cuisine, eh ben, elle a adapté certaines recettes, dont une recette très emblématique qu'elle avait dans la cuisine, dans les goûters, que vous connaissez peut-être pour l'avoir mangé en tant qu'enfant et puis que peut-être vous mangez avec vos enfants. Eh bien, on en a beaucoup parlé dans cet épisode et on s'était dit que si vous vouliez vous aussi vous lancer dans le défi de tester sa recette, vous pourriez la partager avec nous. Allez, je vous en dis pas plus et vous aurez l'explication à la fin de l'épisode. Allez, c'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Virginie.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Heureuse d'être là.
Eh bien écoute, moi aussi je suis très heureux d'être avec toi parce que l'invitation est partie d'un message. Je vais lancer ça en plus. Alors ce qui est marrant, c'est que l'invité de la semaine dernière avait répondu au même message que toi. En gros, j'avais dit, qu'est-ce que ça vous apporte de courir dans le travail? Et alors, la réponse que tu m'as faite, j'ai dit, oh, c'est extraordinaire ta réponse. Alors, je ne vais pas lire la réponse et tout comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais en fait, on va revenir dessus, parce qu'il y a plein de petits éléments et tout, j'ai vu. Et je pense qu'il y a plein de points d'accroche, tu sais, qui vont intéresser mon audience, parce qu'il y a des trucs dont on a déjà parlé, des sujets dont on a déjà parlé. Et il y a d'autres choses qui permettent de faire des rebonds dans tous les sens. Et puis, je pense que c'est un bel exemple aussi tu vois, ce que tu as partagé et tout. Je trouve que c'est un beau message à faire partager. Donc, c'est pour ça que j'étais très content que tu répondes et que tu acceptes mon invitation. Mais d'abord, on va faire les présentations en quelques mots. Je te laisse te présenter.
Me présenter. Du coup, moi, c'est Virginie. Virginie alias Cétorine sur les réseaux. J'ai 42 ans. Je suis maman de 3 enfants, adolescents, préadolescents et tout petit de 3 ans. Je suis, dans la vie, je suis coach professionnel et vie personnelle. Donc, j'interviens aussi bien en entreprise qu'avec des particuliers. Et j'ai effectivement répondu à ton message parce que je pense que le cœur du sujet, c'est que je fais du sport, je cours, je pratique le run depuis quelques années.
Mais alors, ce qui était étonnant dans ton message, c'est à quel moment tu as commencé à courir ?
Alors, j'ai commencé à courir. Alors, si je plante le décor, j'étais adolescente, j'étais plutôt le genre d'ado qui séchait le cross du collège avec toutes les excuses du monde. Pour justement sécher ce fameux événement de l'année. J'ai jamais aimé courir, j'ai jamais aimé l'endurance, et j'ai commencé à courir du fait que j'ai une pathologie. Ça a commencé par là. Avec cette pathologie, j'ai commencé un régime alimentaire. Au départ, c'était pour perdre du poids uniquement. Il n'y a aucune hypocrisie. J'étais en obésité plus. Donc j'ai commencé, c'était un peu le régime de la dernière chance à l'époque. J'ai commencé à faire ce régime-là et au bout d'un mois et demi, deux mois, sans vraiment que je fasse encore le lien, je me suis rendu compte que j'avais moins de douleurs quotidiennes puisque quand j'ai commencé cette alimentation, je marchais avec une canne régulièrement. J'allais au travail à pied pour te dire, je connaissais le plan des bancs publics de ma ville absolument par cœur parce que je ne pouvais pas faire de longues distances. Et puis, au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à ne plus ressentir de douleurs quotidiennes. Donc là, je me suis un petit peu interrogée, mais j'ai pas fait le lien tout de suite. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, viens avec moi, je peux inviter quelqu'un à la salle de sport, viens vérifier, en fait, sur un tapis, si effectivement il se passe quelque chose. Donc, je suis allée avec elle. Alors, autant te dire qu'à la fin de la séance, j'étais au bout de ma vie. Au niveau souffle, forcément, j'étais encore en surpoids, donc c'était très compliqué pour moi. Mais, force est de constater qu'à la fin, j'avais pas de douleur. Donc, je suis rentrée complètement euphorique, totalement euphorique, en me disant, c'est quoi ce truc? C'est incroyable, je fais du sport, on dirait que j'ai rien, bon, hormis le manque d'activité sportive, mais au niveau santé. Et donc, le lendemain, je prenais un abonnement à la salle de sport et j'y suis allée tous les jours. Le truc à pas faire. J'y suis allée tous les jours, et tous les jours sur le tapis, je courais, et aucune douleur. Donc, ça a commencé comme ça.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux le dire, ta pathologie, expliquer en quoi ça consiste? Enfin, pour ceux qui connaissent.
Bien sûr, j'ai une sclérose en plaques.
Ouais.
C'est une maladie donc neurologique. Après, pour les explications, c'est en gros, autour du cerveau, il y a une membrane qui s'appelle la myéline. Les personnes qui ont une sclérose en plaques, cette membrane est plus n'est pas complètement comment dire je trouve pas mon mot, excuse-moi. La membrane, en fait, elle laisse passer, voilà.
Ouais.
Et du coup, en fait, elle est pas, je ne trouve pas le mot, je suis désolée, elle est pas, c'est pas opaque.
Ouais, elle est pas. Oui, je vois le mot en fait. C'est qu'elle est pas. Elle laisse passer alors qu'elle devrait pas laisser passer. Normalement, c'est un filtre.
Voilà. Et quand il y a des poussées, effectivement, il y a des plaques peuvent se former et ces plaques peuvent. Alors, elles subsistent, hein, ces plaques, et du coup, ça peut s'inflammer. Donc, il y a des périodes inflammatoires. Après, c'est très compliqué d'en parler. Là, c'est vraiment comment dire. La généralité de cette pathologie, puisque en fonction des personnes, les effets, les symptômes, les poussées, c'est très varié. Moi, je dis souvent que c'est un petit peu aussi au bonheur la chance. Il y a des personnes qui vont faire des poussées à 18 ans et qui vont se retrouver effectivement en fauteuil pour toujours. Et il y a des personnes qui vont faire des poussées régulières et qui peuvent s'en remettre. Il y a des personnes qui vont faire une poussée et plus jamais. C'est vraiment en fonction des personnes beaucoup. Donc c'est très difficile quand on me demande de me parler de ma façon de la vivre. Voilà, ça va pas forcément être la même qu'une personne effectivement de 22 ans qui va faire une poussée et qui se retrouve du jour au lendemain en fauteuil roulant.
Ouais. Alors, c'est une maladie dont on a déjà parlé dans le podcast. Notamment, j'avais reçu la team Ruban Bleu pour en parler. On a eu des invités quand ces cadres-là, etc. Mais là où c'était étonnant, c'est qu'en même temps, tu parles de régime alimentaire, de l'impact de ton régime alimentaire. Et puis après, on reviendra sur l'impact du sport. Et alors, moi, je t'avoue, ton régime alimentaire, j'en avais entendu parler pour plein de choses, mais pas pour ça.
Non. J'étais la première surprise parce que, il faut dire ce qui est, quand j'en ai parlé la première fois à mon médecin, moi je m'étais allégée d'un certain poids déjà, puisqu'au total j'ai perdu plus de 50 kilos. Mais à l'époque, quand j'y suis allée, j'avais déjà effectivement perdu un peu de poids, et puis j'étais dans l'euphorie de mon truc parce que moi j'avais fait, je sors de 20 ans de régime, 20 ans de troubles de comportement alimentaire. Donc du coup, pour moi, c'était absolument incroyable de manger du gras, finalement, puisque c'est ça le concept, hein, de manger du gras, de baisser ma consommation de lipides, de perdre du poids, et en plus, je me sens mieux. Donc il m'a apporté l'explication de me dire, bah, c'est normal. Le sucre étant inflammatoire, le fait de ne pas en manger, c'est anti-inflammatoire. Donc en gros, ça a été la balle, et puis il m'a dit, par contre, moi, je suis défavorable à cette alimentation. Pour moi, c'est du suicide, je le cite. Hein. Il l'a dit comme ça. Donc je me suis levée, je suis partie. Et je suis allée voir mon médecin traitant. Et là, je lui ai expliqué la situation. Donc elle me connaît aussi depuis le début de la pathologie, on se connaît très bien. Elle m'a dit, laisse-moi une semaine, je me renseigne. Et au bout d'une semaine, elle m'a dit, moi, je suis d'accord, mais on vérifie par bilan sanguin de façon régulière. Le moindre taux qui part en vrille, on arrête. Deal ou pas? J'ai dit, ok, deal, allons-y. Et ma santé au niveau sanguin, au niveau bilan, tout ça n'a jamais rien changé. Après, je ne dis pas que cette alimentation convient à tout le monde avec cette pathologie. Ça, je me refuse à le dire, parce que ce n'est pas forcément vrai. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, elle me convient depuis 6 ans.
Mais ce qui est incroyable, c'est quand même, c'est que le cétogène, c'est vrai qu'on en parle pour... puis c'est inventé pour les crises d'épilepsie, enfin des gens qui ont ce type de maladie.
À la base, oui.
On en a parlé aussi pour ceux qui veulent perdre du poids. J'ai reçu un invité qui lui court en ce mode cétogène et pour ne plus avoir de coups de barre, etc. C'est un mode d'alimentation qui pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est pas possible, ça marche pas. » Je me rappelle quand j'ai diffusé l'épisode, on m'a dit « Ouais, mais c'est pas possible, on peut pas courir sans glucides, c'est impossible, etc. Et » Et pourtant, quand on en parle aux gens, il y a plein de petits trucs comme ça où on va chercher, où on voit qu'en fait, bah, il y a quand même une efficacité. Alors, c'est comme tu l'as dit, c'est très bien de dire que c'est pas la recette miracle pour tout le monde, mais que dans ton cadre à toi, ça fonctionne. Et que tes bilans sanguins prouvent qu'en plus, ça ne détruit pas ta santé.
En fait, il faut savoir que j'ai toujours l'obésité, mais j'ai toujours eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir un impact sur ma santé par rapport à l'obésité. Je n'ai pas eu de cholestérol, je n'avais pas de triglycérides, je n'avais pas de problème comme ça.
Ouais.
Mais avec l'alimentation cétogène, depuis 6 ans, mes bilans n'ont pas changé. Je n'ai pas les artères bouchées. Et clairement, on parlait de la course. Quand je cours en cétose, mes performances sont complètement différentes que quand je sors de ces tours pour aller, par exemple, sur une période de low carb, notamment pendant les vacances, parce que voilà, on est avec les enfants, on va se manger une glace, on va manger le tas de mamie. Donc, on va de temps en temps faire des petits écarts comme ça. Mais moi, je me sens tout de suite, par contre, au niveau de la course.
D'accord. Alors là, c'est intéressant de toucher un point. On va repréciser vraiment cette histoire de cétose et sortie de cétose et tout pour que les gens qui ne sont pas au courant. Alors, je vous le dis, hein, il y a l'épisode de Sport Nutrition. Allez écouter où il explique à peu près le truc. Et il y a les liens vers le livre aussi où c'est un peu expliqué. Mais en quelques mots, c'est quoi vraiment le principe?
Le principe de la cétose?
Ouais.
Ou de manger cétogène?
Alors, déjà, le principe de la cétose. Et puis ensuite, on verra comment tu manges cétogène et pourquoi il y a des moments où t'es plutôt cétogène et pourquoi tu as des moments où t'es plutôt low carb.
Alors, je vais le faire dans le sens inverse, parce que c'est plus logique, en fait, dans la logique d'explication. Manger cétogène, en fait, c'est en gros réduire sa consommation de glucides en favorisant la consommation de lipides avec une consommation raisonnée de protéines. D'accord. Ce qui va faire que le carburant du corps va changer, puisque une personne lambda, sa source d'énergie, ça va être le glucide. Une personne qui va passer en cétose, sa source d'énergie ne sera plus les glucides, mais bel et bien les lipides. Voilà. Donc en fait, c'est pas juste en fait arrêter de manger du sucre, parce que là, du coup, c'est même contre-productif, justement, c'est même dangereux pour la santé. Là, le principe, c'est vraiment d'inverser les carburants, puisque autant le corps ne sait pas fabriquer lui-même des lipides ou des protéines, autant le corps, lui, sait fabriquer une autre source d'énergie à partir des lipides, en fabriquant ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et c'est ce qui nous fait passer en état de cétose.
D'accord. Donc tu disais, tu manges gras,
Du bon gras.
du bon gras, et on va
Pas tard.
parler du bon gras, des protéines en quantité limitée, parce que je dis, parce que sur Fred's et compagnie, là, il y a des gens qui ne mangent, il y a les carnivores qui ne mangent que de la viande et pas de légumes.
Ouais, mais non, c'est pas. Moi, je suis pas du tout. Moi, je suis pas du tout une. Alors, pas du tout une Galatola du keto. Pour moi, je ne prône pas que la terre entière se mette au keto. Même les gens qui viennent me voir en me disant, j'en ai beaucoup hein, sur les réseaux, qui me disent, moi, je perds 10 kilos avant juillet. Ben non, ça va pas en keto en fait. Pour moi, le keto, ça a été une prise de conscience. Et pour moi, le keto, c'est surtout une porte ouverte au débat sur effectivement les méfaits du sucre à outrance dans tous les produits transformés, bah, finalement qu'on donne à nos gamins quoi derrière. Donc moi c'est plutôt ça en fait, et c'est pas un combat, mais mon message en tout cas. Voilà, je suis très ouverte. Voilà, je pense que je suis même la keto la plus feeling de la sphère keto. Moi je me définis comme ça depuis le départ, donc c'est pour ça que j'ose le dire parce que je n'ai jamais compté de macros. C'est-à-dire que au départ oui j'ai compté les glucides parce qu'il fallait bien que j'identifie où ils sont. Et là, je me suis rendu compte que j'en mangeais 300, 400, 500 grammes par jour, en me rendant compte de ce que je mangeais. Donc, j'ai compté effectivement un peu les glucides au départ, mais par contre, les protéines et les lipides, je me suis toujours refusée à compter les macros. D'ailleurs, quand on vient me voir, et dans le livre que j'ai écrit sur l'alimentation cétogène, dans mes recettes, je ne donne pas de macros parce que pour moi, ça serait un non-sens finalement, puisque toute la famille mange cétogène à table aujourd'hui. Donc, je ne vais pas mettre mes enfants au régime. Donc, du coup, non, oui, je suis très kétophile.
Donc tu disais tu mangeais 300-500 grammes de glucides. Alors, pour que les gens
Ouais,
s'en
par
rendent
jour.
compte,
C'est énorme. Mais ça va vite.
voilà, exactement. C'est-à-dire que donne-nous quelques sources de glucides que tu avais dans ton alimentation et qui vont très vite.
Ah bah c'est très simple. Alors moi déjà je suis une fan du petit déjeuner. Donc déjà le matin, petit déjeuner, tartine, Nutella, biscottes, les fameux paquets de biscottes où il faut manger 5 biscottes, voilà, les fameux petits déjeuners équilibrés, le jus d'orange le matin, les biscottes, le beurre, la confiture, etc. On est déjà à 90 100 grammes.
Ouais, facile.
Voilà. Sachant que l'OMS, c'est 25 grammes de glucides par jour et par
Par jour,
personne. Voilà, on est déjà à 90 grammes. J'arrive au bureau à l'époque, je travaillais dans la banque, il y avait toujours un petit déjeuner, des pains au chocolat, des croissants, voilà, petit déjeuner. La petite barre à 10 h avec le café, et puis après à midi, au resto, forcément, avec des pâtes, des frites, du riz, et puis après on mange le dessert, parce que voilà, c'est compris dans la formule. On va revenir au café, ah ben tiens, il reste des croissants, on remange des croissants, le goûter à 4 h, le soir on enchaîne sur le dessert, et moi j'avais des troubles de comportement alimentaire, soir devant la télé, c'était la déchéance. Et en général, bah, les produits que tu manges devant la télé, c'est rarement des bâtonnets de carottes, hein, on va pas se mentir. Donc, c'était des paquets de petits écoliers, des M&M's, des bonbons, des gâteaux. Et bah, à la fin de la journée, tu fais le compte et tu fais waouh!
Ouais, c'est-à-dire que l'appétence pour le gras sucré, hein, c'est vrai que puis on adore ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans l'épisode de Samy du lundi, où on a cette appétence pour le gras sucré, qui vient en plus de plein de choses, parce qu'il y a les hormones, il y a tout un tas de choses qui vont jouer dans ces fonctionnements-là, et qui en plus, avec l'obésité, le renforce. C'est ça qu'en plus on ne se rend même pas compte à quel point il y a un renforcement de tous ces comportements-là. Mais c'est vrai, et tu vois, sur le petit déjeuner, c'est quand même super intéressant, parce que tu dis biscotte. Alors, ce qui est le déjeuner, on va dire le petit déjeuner qui est vendu à la française, j'ai envie de dire, qui est dans le truc, moi j'en parle tellement souvent en disant, ouais, c'est le truc à éviter. Parce que, alors tu m'as parlé de jus d'orange, bon, Nutella, moi j'adore ça, mais j'en mange pas. Les fameuses biscottes, même, tu te dis, effectivement, quand tu regardes tout ça, c'est-à-dire que tu charges la machine en glucides très tôt le matin et tu passes ta
Très tôt
journée
le
à les
matin.
re-remplir en fait.
C'est ça. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants, les céréales, les fameuses céréales qu'on a tous connues, même nous-mêmes enfants, et que moi, avant, je donnais à mes enfants en me disant, c'est les céréales. Le mot céréales, c'est génial. En plus, les Nutri-Score, c'est des trucs A, B, c'est super chouette. Mais au final, quand tu retournes le paquet, tu vois qu'il y a, pour 100 grammes, on est sur 80, 85 grammes de glucides. Et quand tu vas voir les ingrédients, c'est normal, parce que souvent, c'est du blé, des choses comme ça. Donc, OK, ça t'explique. Par contre, quand tu vas voir les ingrédients, dans la liste des ingrédients, eh ben, tu retrouves 3, 4, voire 5 sources de sucre différents, avec des appellations scientifiques, bien entendu, maltodextrine, et j'en passe. Voilà, les gens ne savent pas ce que c'est, mais pour autant, il y a 5 sources de sucre différentes dans les céréales.
Voilà. Et donc, toi, en passant en céto, donc, tout ça, t'as fait la chasse. Donc tu t'es rendu compte qu'il y en avait partout. De toute façon, il y en a partout des glucides, on s'en rend pas.
Partout, même dans le jambon.
Ouais, même dans le jambon. Tous les jambons ou enfin quand tu regardes un peu parce que c'est l'industriel qui en rajoute un petit peu parce que les gens
Ouais,
savent
les
pas, il y a du
jambons
sucre
solides.
qui sont rajoutés, enfin il y a des choses comme ça, c'est surtout l'industriel qui en rajoute un peu partout.
C'est ça, les jambons sous vide, je vais pas citer de marque, je sais pas si vous citez de marque, mais tout ce qui est jambon sous vide, charcuterie sous vide aussi, les trucs tout bêtes que moi j'adorais avant, les soupes. J'en ai beaucoup mangé quand j'étais au régime, les soupes toutes faites, parce qu'on
Ouais.
n'a pas le temps. Les soupes toutes faites, pareil, on regarde dans les ingrédients, il y a du sucre pur canne, du sirop glucose, enfin que des sources de sucre sur des produits dits salés. Que finalement, on ne dit pas qu'il y a du sucre dedans, mais il y en a partout.
Ouais. Et donc, tout ça, une fois que tu l'as identifié, t'as fait quoi? T'as remplacé tout ça? Parce qu'il faut bien manger quand même, à côté.
Faut bien manger, et puis moi je suis une bonne vivante de base. Donc du coup, pour moi, si tu me le permets, mais la bouffe, c'est la vie.
Ouais, t'as
Voilà,
le droit.
voilà, j'ai le droit. J'ai une vie sociale très riche, j'ai beaucoup d'amis, j'aime bien sortir. Donc effectivement, au départ, je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Et finalement, c'est une autre façon de cuisiner. On oublie tous les produits transformés, déjà de base. Donc du coup, c'est des aliments vraiment bruts, cuisinés. Moi, je suis très active aussi, donc j'avais pas trop le temps, donc je suis la reine de la recette ultra rapide. Mais c'est une façon complètement différente de cuisiner, et notamment les desserts, les choses sucrées. Mais on se rend compte avec le temps, alors j'ai eu beaucoup, beaucoup de recettes foirées, hein, on ne va pas se mentir, parce que c'est difficile d'appréhender quand tu n'utilises plus de farine de blé, d'appréhender de la farine d'amande, d'appréhender de la poudre d'amande, enfin des farines comme ça que tu n'as pas l'habitude. Donc du coup, ça a été aussi un peu sport de ce côté-là. Mais j'ai des enfants. Et je veux continuer de partager des choses avec eux. Donc, a fortiori, bah, je m'y suis mise. J'ai raté plein de choses. Et puis, finalement, il y a des choses qui ont réussi. Et de fil en aiguille, j'ai partagé mes recettes. Et puis, ça a plu aussi, voilà, aux personnes de ma communauté. Et comme ça, bah, pas toute seule, en fait, hein, parce que moi, j'avais pas du tout d'appétence de base pour la cuisine. Et je me rends compte aujourd'hui que pas mal de choses, finalement, que tu manges en non-keto sont tout à fait adaptables. D'ailleurs, c'est comme ça que je travaille sur les recettes. Je prends une recette non-keto. Et je vais aller la travailler au mieux en keto pour pouvoir avoir le même plaisir sans sucre.
Oui, mais tu vois, il y a quand même. Alors, tu parlais de la pâtisserie, par exemple.
Oui.
C'est vrai que la pâtisserie, on pourrait parler du pain. Il y a du blé. Dans le blé, il y a du gluten. Et le gluten, c'est ce qui fait l'élasticité, c'est ce qui fait le moelleux, c'est ce qui fait tout ça et tout. Et c'est vrai, c'est pas facile à reproduire quand même quand tu fais des gâteaux, d'avoir des textures et tout. Faut gruger, faut mélanger des farines, faut s'ajuster, quoi.
Il faut gruger. Il y a des fois beaucoup de travail. Moi, j'ai eu le déclic, pour te dire, j'ai eu le déclic quand un jour mes enfants prenaient leur goûter et moi j'étais vraiment à fond dans mon céto, mais eux continuaient de manger comme avant. Et il y a un bout de savane, c'est le fameux gâteau que tous les gamins adorent. Ils finissent le goûter, il y avait un petit morceau de savane qui traînait. Et moi, j'aime pas jeter, je prends le truc et machinalement je me le mets dans ma bouche. Et là, je me dis, oh, mais c'est quoi ce truc que je leur donne en fait? J'ai senti tout de suite que bah forcément le sucre. Hein, moi, j'ai senti que ça. Parce que quand ton palais se déshabitue, forcément, dès que tu remanges un peu sucré, tout de suite, tu as ce goût-là et le goût chimique, et ça a été mon cheval de bataille. Des semaines, j'ai travaillé sur ce savane, et ils en ont mangé du savane raté, je peux te le dire, jusqu'à ce qu'ils me disent un jour, maman, c'est incroyable, on dirait le même. Et là, je me suis dit, t'es gagné. Et ça a commencé comme ça avec eux.
Ouais, c'est drôle parce que moi, j'arrive pas à imaginer. Comment tu peux arriver à imiter un savane parce que en plus ils adorent ce goût-là les gamins. J'ai souvent raconté l'histoire qu'avec ma fille on fait des gâteaux et qu'une fois à l'école de musique il y a un goûter, enfin une sorte de goûter, et il y a une petite fille qui vient. Chacun amène le gâteau, puis nous on le fait quasiment sans sucre. Et puis il y a une petite fille qui vient et puis je crois qu'en plus j'ai mis une farine de petite épeautre. J'ai poussé un peu le bouchon un peu loin pour des gamins. Et elle le mange, elle regarde, elle fait il est pas bon, tu sais. Et à côté, elle mangeait tous les gâteaux industriels qu'il y avait à côté. Et c'est vrai qu'ils sont habitués à ces goûts-là. Et puis nous aussi, enfin moi le premier, tu me parles, et moi les barres 4 quarts et tout, j'adorais ce truc-là et tout. Tu vois, j'ai du mal à me dire, et pourtant, et genre, tu vois, j'ai fait des essais, on a je sais pas combien de sortes de farine et tout, qu'on arrive à reproduire des goûts comme ça, tu vois, et être enfin des goûts et des textures et à être assez proche de ça en fait.
Alors, je t'invite à aller sur mon blog, à chercher la recette de savane, parce que c'est des ingrédients que tu trouves en supermarché, parce que toi aussi, c'est mon cheval de bataille, parce qu'on dit souvent, oui, l'alimentation cétogène, c'est cher, les farines, etc. Moi, sur les recettes, en fait, je me borne à faire des recettes très accessibles avec des choses que tu peux trouver partout, en supermarché, au pire sur des sites internet spécialisés, mais pas des produits comme on peut le voir parfois aux États-Unis ou voilà des choses bien spécifiques parce que j'ai aussi des gens qui me suivent sur les réseaux, pas parce qu'ils sont cétogènes, mais parce qu'ils veulent réduire leur sucre
Ouais.
dans l'alimentation. Donc du coup, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Et vraiment, c'est. Enfin, maintenant, ça me paraît naturel. Forcément, au
Ouais.
début, je vais pas te mentir, hein, j'en ai raté du pain, j'en ai raté des gâteaux, plein. Et d'ailleurs, mes enfants, les deux qui ont 13 et 10 ans aujourd'hui, quand j'ai commencé, comme tu le dis, ils étaient habitués à ces produits industriels. Mais je vois la différence avec mon petit qui a 3 ans, presque 4 ans, qui lui n'a connu que ça. Ben, c'est un des seuls enfants, je pense, qui mange du chocolat 100%. Nickel, il n'a jamais connu rien d'autre. Donc forcément, il n'a pas cette approche que les grands frères ont eue, où j'ai eu du mal quand même. J'ai bataillé, on va pas se mentir. J'ai même triché, remplacé le Nesquik par du chocolat 100% cacao. J'ai vraiment triché. Tu vois, j'ai d'abord le truc, j'ai mis un quart, j'ai mélangé avec le Nesquik, puis après la moitié, j'ai mélangé avec le Nesquik, puis à la fin, on a toujours le même paquet de Nesquik, mais c'est plus du Nesquik dedans.
Oh.
Ouais, je l'ai grugé un petit peu sur certaines petites choses, mais après, ça reste des enfants normaux. Ils vont à des anniversaires, ils mangent des bonbons. Voilà, ils vont chez mamie, ils mangent des bonbons. Ils sont complètement. Mais par contre, ils ont cette conscience de faire les bons choix.
Ouais.
Voilà, ça, après, ça leur appartient.
Mais je trouve que c'est intéressant justement cette conscience de leur apprendre en fait. Moi je mets pas toujours ma fille à la 6 ans, je sais plus ce qu'elle nous a sorti. Hier on mangeait, dit ah bah là-dedans c'est protéines et comment elle m'a sorti ça? Et légumineuses. C'est bien ce soir et tout. Enfin légumes et légumineuses. On mange comme ça ce soir et ça on machin et ça on machin et tout. Tu vois l'avoir la conscience de ce truc-là. Puis moi des fois je la regarde, je me dis mais moi à son âge mais même beaucoup plus tard, j'ai pas la conscience. Soit tu parlais de ta prise de conscience des glucides, mais et il y a combien de gens n'ont pas conscience? Alors ceux qui écoutent le podcast, forcément. Puis si vous écoutez en plus sport nutrition, là, on a tout le package. Forcément, on en a plus conscience parce qu'il y a des moments dans la vie et tout qui font qu'on s'y intéresse plus, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout conscience, tu vois, de ce qu'on vient de dire de la présence des glucides, à quel point il y a du sucre, et qui vont payer les conséquences dans leur vie au quotidien. Alors, je parle même pas de maladie, mais avec des coachés, des fois, le premier truc qui revient souvent, c'est la fameuse petite fatigue à 14h. Alors, ça me fait rigoler parce qu'on enregistre à 14h35. Normalement, c'est le moment où tout le monde a le coup de barre, tout, après le déjeuner, etc. Et il y a des gens, tu leur dis, mais et si ça venait peut-être de ta quantité de glucides que tu mangeais, de la difficulté à les digérer, de la quantité de sucre que ça fait, etc. Et en fait, on n'en a pas conscience de ça. Et c'est intéressant de prendre conscience de ça et de donner aux enfants, en fait, bah, la compréhension de ce qu'on mange, de l'impact que ça peut avoir sur tout un aspect de notre vie.
De toute façon, les enfants, on va pas se mentir, hein, ils sont l'avenir. Donc, plus les consciences seront éveillées à ce niveau-là sur l'alimentation, et mieux sera le futur de tous ces enfants. Au-delà de la cétose, juste que tu disais le fameux coup de barre de 10 heures et le fameux coup de barre de 14 heures quand tu as enchaîné juste avant un petit déjeuner sucré puis le petit dessert après le repas du midi. Au-delà de la cétose, c'est aussi l'impact de la glycémie. Le fait d'avoir une glycémie stable, notamment pour les femmes, ça joue sur beaucoup de choses, notamment tout ce qui est cycle hormonal. Moi, avant, j'avais des douleurs spectaculaires, voilà, en période de menstruation. Aujourd'hui, la stabilité de ma glycémie fait que ça passe comme une lettre à la poste. Donc, il y a plein de petites choses, en fait, comme ça, les sautes d'humeur, qui sont régulées simplement par le fait que la glycémie soit lissée sur la journée. Au-delà même de la cétose, finalement.
T'as dit un truc tout à l'heure, et pour revenir là-dessus, et après on parlera de course à pied, hein, parce que
Ouais.
c'est, tu as dit quand même, pendant les vacances, etc., il y a des moments où tu sors de cétose, tu parlais des glaces, des choses comme ça, et tu passes plutôt en mode low carb. Alors, pour préciser un petit peu, pour que les gens aient un petit peu les, je sais pas si on peut parler en si c'est une question de quantité, je sais pas comment tu juges le passage de l'un à l'autre en fait.
Alors, le passage de l'un à l'autre, c'est qu'en low carb, l'organisme n'inverse pas les carburants. C'est-à-dire que le carburant, c'est toujours les glucides. C'est simplement que la consommation de glucides est diminuée à peu près 100, enfin moi en tout cas je me fixe 100 grammes. Je vais pas aller sur les féculents, je vais pas aller sur des journées entière, d'accord?
Ouais.
Voilà, peut-être de la nourriture et je mange n'importe quoi. Non, ça va être vraiment des petites envies ponctuelles sur des choses que je n'ai pas envie de remplacer en keto. On parlait justement, tout peut être adapté. Non, moi je suis d'origine portugaise, il y a des pâtisseries portugaises, c'est la pâtisserie comme elle est, je ne vais pas aller la modifier en keto, j'ai même pas envie d'aller la bosser en keto parce que c'est mon petit plaisir par rapport à des souvenirs d'enfance, etc. Donc le low carb, en fait, c'est qu'on repasse à un carburant glucide. Mais attention, parce qu'il y a une notion, bon, après toi tu connais peut-être en nutrition, mais sur le carb cycling, faut faire très attention et je suis assez prudente sur ces propos-là. Il faut pas s'amuser à switcher de l'un à l'autre. Moi, mon corps le fait assez facilement parce que ça fait 6 ans. Je peux effectivement, un matin où j'ai envie de boire un demi-verre de jus de fruits, ben, je vais le faire. Parce que je sais que voilà, le lendemain c'est terminé, je repasse en cétose et on passe à autre chose. Mais ça, il faut pas trop s'amuser à le faire, c'est pas trop bon pour la santé. Mais c'est ça le low carb, en fait. Bah après, là, ça reste un petit peu à la marge, justement, parce que j'ai repris très sérieusement la course à pied. Et que, du coup, depuis début janvier, là, je reste dans ce que moi j'appelle mon keto propre. Oui, carrément. Keto propre, c'est-à-dire que je reste vraiment dans cette cétose, en fait, qui m'apporte justement les bienfaits qu'aujourd'hui je recherche dans la cétose, bien au-delà du poids.
C'est vraiment intéressant l'histoire du citoyen. Je pense qu'on va en reparler parce que j'ai d'autres idées d'invités aussi, de creuser un petit peu le sujet parce que. Faut le dire un truc, c'est que sur Sport Nutrition, c'était l'un des épisodes de l'an dernier qui était le plus écouté. Pas le plus commenté parce que j'avais chatouillé les vegans sur un épisode et là, ils nous ont incendié là-dessus.
Ah bah ça, j'imagine.
Donc ils ont mis beaucoup de commentaires. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se posent la question du cétogène pour plein de raisons différentes, etc. Tu dis, il y a ceux du poids, il y a ceux de la performance sportive dans certains cas. Moi, je trouve la clarté mentale, hein, cette histoire de glucides sur la clarté mentale. Quand on est un entrepreneur, quand on est un cadre, ou même quand on est un salarié, quand on n'a pas envie de dormir tout l'après-midi sur son bureau et de finalement être actif que quelques heures dans la journée et d'avoir un peu un. Tu sais, moi, c'est ce que je dis parce que c'est ce que je dis à une coachée. Je dis, ton intérêt, toi, c'est que ton travail, tu le fasses pas en 8 heures ou 9 heures, mais que tu le fasses en 6 heures. Et puis, si tu peux partir, tu pars. Donc, ton intérêt, c'est que ton esprit fonctionne mieux. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'en faisant attention aux glucides, ça peut être le cas. Et je pense que ça. Sans aller jusque mode céto, je crois quand même que les gens se rendent compte à quel point les glucides, il y a vraiment un abus. Même si M. Kellogg, qui propose maintenant aux Américains de manger des céréales le soir, ouais, c'est la
C'est ça.
nouveauté. Bah ouais, maintenant ils ont plus d'argent, alors ils peuvent manger des céréales le soir, tu vois, ça remplacera, ça fera petit déjeuner le matin avec des céréales, dîner le soir avec des céréales, comme ça on fait tout le truc, tout.
Terrible.
Bah, ça c'est du business. Mais je pense quand même que les gens ne s'en rendent pas trop compte et que ça vaut le coup. Tu vois, de se dire, ça vaut le coup de regarder un petit peu, comme tu disais, les glucides, où est-ce qu'on en prend, qu'est-ce qui se passe si on en prend un tout petit peu moins, comment on réduit et tout. Comme d'autres trucs, en fait. Tu vois, moi, et en plus, je trouve que c'est peut-être pas si compliqué que ça, même si c'est vrai que, tu vois, on parlait de cuisine. Il y a des fois, la cuisine, il y a des trucs. Attends, une fois, j'ai fait des. Alors, si, les cookies avec la farine de châtaigne, c'est assez facile à faire, mais il y a des trucs. L'autre jour, en plus, j'ai vu un commentaire sur. J'avais mis une recette de pain avec du psyllium dedans, et quelqu'un m'a dit, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est différent.
Oui, les textures sont un petit peu différentes, mais je trouve que il y a quand même pas beaucoup de il y a quand même pas beaucoup de textures, quoi. En tout cas, en keto, on n'arrive pas à reproduire.
Ouais.
Je dirais peut-être le croquant des gâteaux, c'est un peu les petits écoliers,
Ouais.
le petit beurre. Ce croquant-là, il est peut-être celui que je cherche encore.
Ouais.
Mais sinon, après, sur le reste, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent faire illusion.
Bon, allez, là-dessus. Alors, je mettrai bien sûr les liens vers les notes dans les notes de l'épisode vers ton livre, vers tes recettes, etc. Hein, si tout le monde fera faire de la savane, vous partagez ça sur Instagram, vous nous taguez sur Instagram avec votre savane.
Bon, testez le savane sur le blog, il est en
Voilà.
accès gratuit et dites-moi ce que vous en pensez.
Voilà.
Mais c'est vraiment le gâteau qui passe même chez les non-kétos. En fait, de base, même dans le livre, hein, toutes les recettes qui sont dans le livre sont des recettes qui ont été testées sur des non-kétos et notamment des enfants. Forcément, bec sucré et tout est passé.
Tout est passé.
Forcément.
Bon, écoute, si c'est validé par les enfants, par les becs des enfants, c'est que c'est bon. Pour revenir à la course, donc dans le message que tu me partageais, il y a un truc, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Tu as dit, j'ai décidé de changer de vie le jour où j'ai passé ma première ligne d'arrivée officielle après 8 kilomètres. Et ouais. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette phrase-là, en fait.
Ouais, ben c'est rien que de l'entendre, ça me fait un truc. Je me replonge sur. C'est un moment que je revis souvent, cette ligne d'arrivée. C'est vraiment, ça a été finalement, c'est 8 kilomètres, ça n'a l'air de rien hein, pour les gens qui courent beaucoup. Mais moi, à l'époque, c'était au mois de septembre, j'avais commencé justement. Le keto en janvier. Donc, en janvier, je marchais avec une canne. En septembre, je cours 8 km. Alors que, on m'avait dit, plus jamais tu ne courras. Donc, forcément, pour moi, c'était extraordinaire. Et c'est 9 mois de travail, enfin, c'est 8 mois de travail, c'est 8 mois de prise de conscience où forger une espèce de force, de conviction qui ont fait que quand cette ligne, je l'ai passée, ça a été mon déclic. Mmh. Moi, je crois pas, tu sais, au déclic. Oui, alors j'attends le déclic, j'y crois pas. Il y a des gens comme ça, toute leur vie, vont rester les fesses sur le canapé devant Netflix et attendre un déclic. Pour moi, un déclic, c'est un peu la somme de réussite, c'est la somme d'échec. Et c'est un peu tout ça qui fait que tu réalises ce que tu peux avoir. Et là, il y a le déclic. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, quand j'ai passé cette ligne, le déclic, je change de vie, c'est maintenant.
Et c'était il y a 4 ans ou il y a combien ?
C'était en 2019.
Ouais, 2019. Et tu vois, je suis en train de retilter quand même, c'est-à-dire que tu étais dans la trentaine, tu marchais avec une canne. Ouais. C'est quand même dur, hein, comme. Je sais pas, enfin, en 30 ans, on est jeune, enfin, 35, 36, 37, 38 ans, quoi, grosso modo. On se sent jeune, on a plein d'années et tout. Tu marches avec une canne quand même.
Ouais, c'était pas tous les jours, mais ça a été pire même. J'ai eu des périodes bien pires puisque j'ai cette pathologie depuis mes 26 ans. Je l'ai appris un peu par hasard en plus. Mmh. La veille de Noël, sympa, joyeux Noël. Mmh. Et en fait, donc je l'ai appris par hasard. Moi, elle était déjà là, mais je ne le savais pas. Mmh. Mais à partir du moment où je l'ai su, comme quoi l'impact sur l'esprit, je suis allée en pente, mais vraiment descendante. Mmh. Et j'ai eu des périodes bien pires où je ne pouvais plus marcher, paralysée du côté gauche. 25 ans, tu te dis que ta vie, elle est finie.
Ouais.
Vraiment. Et j'ai vraiment eu des phases très sombres. Et voilà, ça n'a pas été facile. Mais après, j'ai toujours eu un caractère voilà, un peu bien trempé, un caractère positif. On voit le verre à moitié plein. Bien qu'il y ait eu des phases très compliquées, quant à ce genre de pathologie, il y a deux choix hein, finalement qui s'offrent à toi. Soit tu te laisses aller et tu fais plus rien, tu te mets en arrêt de travail, tu restes dans ton lit, t'accuses la terre entière de tes maux et puis tu deviens une vieille conne aigrie. Ou alors, ben tous les matins, tu te lèves et tu montres à tes enfants que voilà, il faut se battre et que il y a pas de raison de pas y arriver.
Ouais. C'est un beau message et tu sais parce que ce matin en plus j'en discutais avec quelqu'un sur on parlait aussi de dire les personnes âgées un peu tu sais à la retraité hein, qui ont un peu ce sentiment aussi qu'ils sont foutus tu vois de dire il y a des petits changements qui pourraient et on disait la difficulté à changer les comportements chez les parents par exemple tu dis mais tu sais tu les vois tu dis s'ils pouvaient changer un tout petit peu ça mais qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être se sentir mieux etc et tu dis ils attendent quoi en fait t'as l'impression qu'ils attendent la fin et tout mais toi t'as 25 ans ouais il y a les croyances mais toi t'avais 25 26 ans donc la vie, elle est longue potentiellement, enfin normalement, et je te le souhaite qu'elle soit très très longue. Donc,
il n'y a pas de raison.
c'est pour ça, je veux te dire, à un moment donné, se dire mais comment avancer justement. Et je comprends l'histoire de nouvelle vie et tout. Tu vois, je vois bien en plus la force que ça peut te donner de passer cette ligne, parce que tout le monde, ceux qui se remettent à la course, le vivent. Et moi aussi, je l'ai vécu ce truc de dire punaise. Ah, qu'est-ce que je me sens bien, etc. Et c'était la suite de ton message, justement, de dire ça, en fait. C'est-à-dire que la course, maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien, tu vois ?
Ben en fait, ce qui s'est passé quand j'ai pris le départ de cette course, je m'étais inscrite 15 jours avant. C'était la dernière occasion d'avoir un dossard. Je suis partie en vrille, j'ai cliqué, pris mon dossard, j'y vais. Tout le monde m'a dit, mais t'es folle, mais t'y arriveras jamais, mais 8 km, mais tu t'en rends pas compte. Et en fait, quand j'ai pris le départ, vraiment, hein, dans ma tête, je me suis refait tout le film là de ces 9 mois et je me suis rendu compte à quel point, avec l'alimentation entre autres et avec le sport, j'avais réussi à reprendre le contrôle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est elle qui le contrôlait. Et là, en fait, c'est comme si on dansait ensemble un peu et que j'avais repris la direction de la danse et que je marchais sur les pieds. Ça fait un bien fou quand même. Donc, en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, j'avais repris ce pouvoir et que si j'étais capable de faire ça contre elle,
ouais.
Bah, j'étais capable de tout, en fait. Et pendant ces 8 km, je me suis vraiment fait tout film. Et quand je suis passée, je me dis, mais reprends ton pouvoir, en fait. C'est vraiment ce qui m'est... Et quand j'ai passé la ligne, c'est les premiers mots que j'ai prononcés. Vraiment, sans aucune... J'ai dit, je sors de vie, c'est marrant. Et j'ai bazardé ma carrière à la banque, j'ai repris mes études, j'ai monté ma société quand on m'a dit, mais non, mais on va prendre post-Covid, tu vas te planter. Non, je vais pas me planter. En plus, je me suis fait coacher moi-même pendant tout ce parcours de formation et j'ai orienté justement sur le travail là de reprendre cette permission, de me donner la permission de reprendre le pouvoir. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Donc, j'ai dit non, moi, je ne me mets pas en auto-entrepreneur. Non, moi, je me mets, je veux ma société, je veux des statuts, des vrais, je crois en moi. Comment est-ce que je peux demander aux gens de croire en moi, de croire en mes coachings, si moi-même, je ne crois pas en moi? C'est un non-sens, en fait. Ouais. Et ça me donne une force. Chaque fois que je suis en bad, d'ailleurs, chaque fois que je parcourais, j'ai un problème, je parcourais. Je reviens, j'ai la solution. À chaque fois.
T'as souvent des problèmes ?
Non, parce que en termes professionnels,
genre. Ouais, mais au point d'aller courir comme ça, c'était un peu la blague, mais dire-en. D'ailleurs, l'invité de la semaine dernière, c'était un peu le truc. Il disait à chaque fois que j'ai un truc qui me bloque, je parcourir, ça se résout d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Bah, c'est exactement ça. J'ai pas souvent des problèmes. Bon, déjà, j'ai 3 enfants.
Ouais, ça, c'est déjà une sacrée logistique.
Voilà, donc déjà j'ai 3 enfants donc, et puis un ado. Donc du coup, il y a des fois où ouais, le fait de courir déjà, ça me permet moi de voilà, d'évacuer, décompresser. Mais ouais, il y a des fois, c'est arrivé que vraiment je bloque sur une situation, sur un coaching, sur quelque chose d'administratif qui bloque, et je prends mes baskets, je vais courir, je reviens, et bam, j'ai trouvé. Et ça peut être à 22h le soir, ça ne pose aucun problème.
Tu vas courir le soir comme ça, 22h, t'as des...
Ça peut, même si c'est que 5 km, mais je commence à courir et je me remets, c'est un peu comme... mon fils me dit que c'est mon super pouvoir de Marvel. C'est un peu comme si j'enfilais une cape et je retrouve cette force, en fait. Je peux pas mettre de mots dessus, en fait. C'est vraiment un ressenti.
Ouais, mais c'est intéressant cette histoire de super pouvoir, parce qu'en coaching aussi, c'est des trucs sur lesquels on fait travailler des fois de se dire, tiens, d'où peuvent venir les forces qu'on cherche à débloquer, à avoir et tout. Et on dit souvent que la course, je le dis dans l'intro du podcast, que la course donne confiance, donne des capacités, qu'on peut mener des projets, que un projet de course, c'est aussi finalement, ça ressemble à beaucoup de nos projets, quoi. Tu cours combien de fois dans la semaine, en fait ?
Alors, sur les périodes, là, on est dans l'hiver. Il y a eu des périodes où... Non, je me mets plutôt en salle. Donc là, je vais faire 3-4 séances par semaine. Il y aura toujours soit 30, soit 45 minutes, soit une heure de course sur tapis. Mais c'est pour m'éviter de courir dehors et attraper un virus. Parce que chez moi, dès que j'ai de la température qui monte, ça peut être compliqué vis-à-vis de la selle.
Ouais.
Donc, je fais attention et sinon, quand il commence à, les beaux jours vont commencer à arriver, oui, 3-4 fois par semaine. Mais je fais toujours de la renfo parce que pour moi, c'est important de travailler en fait cette musculation au niveau des jambes parce que je sais très bien que ce qui m'a sauvée la première fois quand j'ai perdu mes jambes, une fois en 2011, après la naissance de mon fils, ce qui m'a permis de les récupérer, c'était justement d'avoir les jambes musclées parce que j'avais fait du basket. Pendant très 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 longtemps quand j'étais jeune, jusqu'à jeune adulte, et c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir avoir une meilleure éducation. Donc je sais que pour moi c'est important, donc on me dit ouais mais tu peux pas faire autant de muscu avec de la course, etc. Oui, mais pour moi c'est important, parce que je sais que si jamais j'ai un pépin, fin 2022 j'ai eu un pépin par rapport à la SEP, et je sais que c'est ce qui a permis voilà, que je me remette en selle. Donc pour moi c'est important de garder les deux. Mais 3-4 fois par semaine,
ouais. Ouais. Non, mais sur la musculation, en plus, les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas cumuler deux, alors que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup trop de coureurs qui ne font pas de musculation, qui perdent du muscle, qui fondent, et alors qu'en fait, on en a besoin. Là, tu parles dans le cas de la SEP, mais tout le monde en a besoin pour bien vieillir, pour les équilibres, pour porter des choses, etc. On a tous besoin de ça. Donc, il n'y a pas de... tous ceux qui pensent que c'est contre-indiqué, putain, faut dégager. Hein, on les met un peu de côté. Parce que c'est vraiment extrêmement important. Et alors, tu dis quand même, tu vois, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, ouais, des fois, je vais courir que 5 km. Mais il y a quelques années, courir 5 km,
c'était impossible.
C'est impossible.
C'est impossible. J'ai, de chez moi, jusqu'à mon bureau, là où je travaillais, il n'y a même pas, franchement, il doit y avoir 1 km, 1,5 km. J'étais obligée de faire des pauses. Vraiment, quand je dis que je connaissais le... Je viens dans ma ville, tu as envie de t'asseoir, pas de souci. Dans deux rues, à droite, il y a un banc, je sais qu'il est là, je les connais par cœur. Le fait de ne pas prendre les escaliers, tu sais, prendre les escalators. Alors après, avec toujours ce poids aussi un peu... de la société, parce que tu vas pas forcément dire à quelqu'un que tu connais pas, bonjour, j'ai une serpe. Donc, du coup, les gens vont juger. Hein, oui, bah, alors, celle-là, vous en arrêtez. Et puis, en plus, j'étais en obésité. Ouais. Donc, forcément, c'est encore plus facile hein, de mettre une étiquette. Ah, bah oui, elle prend pas l'escalator, bah, forcément, elle prend pas les escaliers, excuse-moi. Forcément, elle prend les escalators, vu son poids, elle est feignante. Voilà. Donc, oui, 5 km, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Et c'est pour ça que les 8 km, la première fois que c'était une course officielle, j'avais un dossard officiel, je me sentais vraiment comme une super héros. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Et d'ailleurs, pour mon entourage entier, c'était un exploit, finalement, d'en être arrivé là. Pour tous ceux qui ont vécu ces périodes sombres avec moi.
Oui, parce que c'est ça. Tu disais, tu pouvais plus marcher et tout, tu étais vraiment bloqué et tout. Paralysé en partie, et te voir courir, je me dis, là, ton entourage et tout, il doit être, je sais pas comment dire, mais vraiment incroyable pour eux de voir cette
évolution. Ça a changé finalement toute la vie de ma famille, de pouvoir jouer au foot avec ses enfants, tu te rends pas compte, hein. Pouvoir jouer à chat, c'est tout bête, hein, tout bête, pouvoir jouer à chat, et tu sais, je m'étais toujours imaginé quand je passais ta ligne, je m'étais toujours dit, ouais. Les 100 derniers mètres, je vais arriver, je vais accélérer, je vais être comme une déesse, ça va être incroyable. Et je suis arrivée, sur le bas-côté, il y avait mes enfants avec des pancartes, ils hurlaient « Maman, on est fiers de toi !» Et je me suis effondrée, je suis passée la ligne comme une merde. Mais parce que j'étais vraiment, l'émotion de me rendre compte de finalement de ce qu'on avait fait tous. Parce qu'ils ont tous toujours été derrière moi, mes amis, mes proches, ma famille. J'ai jamais eu de jugement, moi, sur notamment le cétogène dans ma famille. Personne ne m'a jamais jugé, personne, parce qu'ils ont tout de suite vu, finalement, les effets sur ma santé. Et ça, ça a beaucoup aidé, ça a changé la vie de tout le monde ici.
Ouais. Pour autant, tu ne peux pas faire encore tout ce que tu veux en courant. Enfin, parce que j'ai vu ton message hier par rapport au semi-marathon de Paris.
Ouais.
Tu peux pas faire. Enfin, c'est-à-dire que tu as quand même des limites, je veux dire.
Alors, j'ai des limites. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 2022, j'ai attrapé un gros virus. Un gros virus, rien à voir avec la SEP, mais un gros virus. Et ça a été très difficile. C'est un virus, une bactérie assez compliquée. J'ai dû changer de traitement antibiotique plusieurs fois. Et j'ai fait des fortes températures. Donc, j'ai fait un fake de poussée, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand tu as de la température pendant une période donnée, ton corps va reproduire tous les effets d'une poussée sans que ce soit une vraie poussée.
D'accord.
Et ben, ça m'a mis dedans. Donc j'ai dû prendre de la cortisone, j'ai dû prendre des choses un peu lourdes. Et j'ai mis en fait une bonne partie de l'année 2023 à me remettre. J'ai recommencé le sport d'ailleurs en septembre, tout doux, sans courir, mais juste reprendre le sport. Et donc, ça te fait, y a des problèmes de motricité, des problèmes d'équilibre qui font que non, je n'ai pas eu l'accord. Et je n'étais pas contente pour le semi là de Paris. Mais j'espère bien avoir l'accord, c'est un peu parlé, pour les 20 km de Paris au mois d'octobre. Et donc là, je me donne à fond, là. Méditation, kiné, sport, alimentation. Je suis au taquet du taquet là, pour avoir mon sésame et forcément viser le semi 2025, forcément.
Ouais.
Voire plus.
Mais c'est vrai que comment dire, on se rend pas compte en fait quand on n'a pas des problèmes comme ça. Ce que tu viens de dire là, c'est ce qui peut paraître anodin pour certaines personnes peut-être. L'ampleur que ça peut prendre chez une personne qui est malade, qui a des symptômes, qui a certaines maladies. Est-ce que dans ces moments-là, tu vois, tu te, T'as un doute sur le fait que tu vas pouvoir reprendre la course, tu vois, ou est-ce que finalement, avec ton tempérament, tu dis non, non, mais ça va repartir et tout, ça va.
Non. S'il y a bien une personne dont on ne doute pas, ça peut paraître très égocentrique ou très vaniteux, mais s'il y a bien une personne dont on ne doute pas, c'est moi.
Ouais.
Non, mais parce qu'en fait, je sais que j'ai vraiment compris, et il y a eu un livre qui a été incroyable pour moi, c'est L'effet placebo de Joe Dispenza, qui a été une révélation pour moi, de concilier le corps et l'esprit.
Ouais.
Avant, j'étais fâchée avec mon corps. Avant, j'étais fâchée avec ma soeur. Aujourd'hui, ma soeur, je la considère comme une chance. Je sais que ça peut choquer. Mais sans elle, j'aurais pas commencé à courir. J'aurais pas changé de vie. J'aurais pas eu les 1 000 vies que j'ai depuis 2019. J'aurais pas rencontré autant de monde. J'aurais pas fait tout ça. Et je préfère la considérer comme ça plutôt que comme une ennemie. Et de travailler le mental, de travailler le physique, forcément, l'allier des deux, tant que je serai toujours la plus forte.
C'est chouette. Non, mais c'est un beau message à passer parce que tu l'as bien dit, il y a mental, physique, tu as parlé de ton alimentation, bah, bien sûr, depuis tout à l'heure on parle keto, mais c'est tout un ensemble pour t'amener à ce projet des 20 km de Paris. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle le mode de vie athlète, c'est-à-dire qu'on rentre dans un mode, hop, il y a une date, on dit pour être prêt à cette date-là, pour aller le feu vert dans ton cas et tout, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et tout. Et dedans, tu as raison, il y a la partie mentale aussi de se dire je suis capable de le faire, je vais être capable de le faire. C'est dans mon pouvoir d'être capable de le faire, de me préparer pour.
C'est une croyance ressource. Après, je suis coach, hein, forcément. Forcément, j'ai des choses effectives que voilà. Mais moi, je suis coach, mais j'aime pas. Je suis assez critique sur le développement personnel. Après, il y a plusieurs façons de coacher. Moi, j'ai voulu avoir une approche neuroscience, une approche scientifique, science des émotions, comment ça se construit dans la tête. Comment la psychologie se construit, comment ça s'imbrique et comment en fait justement utiliser les fonctionnalités du cerveau à mon avantage.
Ouais.
Ça c'est vraiment ma façon et ce que je fais avec mes coachés. Plutôt que de rester sur du compte et l'intellectualisation, il y a qu'à voir quand j'arrive dans une entreprise et que je demande qui a déjà fait du développement personnel, 90% des personnes lèvent la main. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Rien. Bah oui, forcément. S'il n'y a pas effectivement un changement neuronal, il ne peut pas y avoir un changement de comportement. Donc, à partir du moment où tu as compris cette logique, c'est inarrêtable.
Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, et justement, on parlait de course à pied. L'intérêt, c'est que pour courir, il faut passer à l'action. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu peux rêver de courir, mais tant que t'as pas commencé à courir, il n'y a rien qui se passe.
Non. Et c'est très frustrant la course à pied parce que quand tu arrêtes pendant un moment, quand tu repars de moins 15. Et ça a été la période les plus compliquées. C'est-à-dire qu'on progresse très vite, mais en même temps, dès qu'on arrête, c'est compliqué de revenir. Là, moi, je cherche encore mon niveau de 2019. Hein. Du coup, c'est avec toutes les phases qu'il y a eu, puis tous les traitements, la cortisone notamment, ça m'a flingué. C'est compliqué. Mais voilà, j'ai développé plein de techniques. Plein de petits trucs et astuces pour justement ben, voilà travailler le muscle, travailler la motricité fine, travailler l'équilibre. Tu vois, dernièrement, il y a 2 jours, j'en parlais avec quelqu'un et je disais, il n'y a pas longtemps, ben, il y a une semaine, j'ai publié une vidéo sur mon Insta, je parle du rap. Ça a beaucoup fait rire. Et, parce que bon, moi, je viens de banlieue, boucherie, bon genre, voilà, maman, 3 enfants, sniper, en rap. Il y a quelques mois, j'étais incapable de le faire. Mon cerveau, il n'arrivait pas à suivre. En fait, je me suis dit, OK, Virginie, tu vas te brosser les dents tous les soirs en dansant. Mais vraiment, genre danser, tu bougeais vraiment, tu bouges, quoi. T'es pas juste bouger un peu ton corps. Une fois que tu auras réussi à coordonner le fait de brosser les dents, et ça, tu verras, c'est pas facile. Coordonner le brossage de dents et de danser en même temps, là, tu pourras faire cette chanson en rap. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc je développe plein de petites choses comme ça a l'air de vraiment, ça n'a l'air de rien. La manucure que je vais pas faire chez la manucure que je fais moi-même pour développer cette motricité fine, cette précision, plein de petites choses comme ça qui forcément vont m'aider sur le reste et sur la course, a fortiori.
Mais c'est super intéressant parce que alors est-ce que tu pourrais nous dire parce que moi tu vois on n'en a peut-être pas conscience la motricité fine et la course. Tu dis ça va aider, mais comment ça va t'aider en fait?
Alors, excuse-moi. La motricité fine, en fait, moi, par rapport, c'est par rapport plus au positionnement du bras. Donc, ça va forcément jouer sur l'équilibre, en fait.
D'accord.
Je vais avoir des fois des positions. Je vais avoir des positions qui font que ça va jouer sur mon équilibre après pendant la course. Mais la motricité fine, je vais te donner un exemple vraiment lambda, mais c'est un exemple comme un autre. Mais juste le fait de faire ses lacets correctement,
ouais.
Ça n'a l'air de rien. Mais quand tu n'es pas doué avec ta motricité fine, faire un lacet qui se délace pas finalement toutes les 10 minutes, c'est un challenge.
Ouais.
Ça n'a l'air de rien de faire un lacet. Mais voilà, moi, c'est plein de petits gestes comme ça, en fait. Et puis ça fait aussi passer, parce que la motricité fine en tant que telle sur la course, bon, ça ne va pas changer la face du monde. Mais moi, quand je vais devoir passer mes examens, que je passe régulièrement dans l'année, ben, ils vont tester cette motricité fine. Et donc, plus j'aurai de meilleures notes, et plus j'aurai la chance de faire mon 20 km de Paris, tu vas voir. C'est tout bête, mais il faut que chaque case soit remplie pour pouvoir avoir l'accord. Après, je bosse aussi avec, j'aime bien les appeler le staff. Voilà, avec le médecin, le neuro, avec tous ces gens-là, et mes proches aussi qui me poussent.
Et tu en as parlé avec les médecins, avec ton staff, là, comme tu parles, de l'impact de la course, de la nutrition, sur l'évolution de ta maladie, comment ça peut interagir?
Alors, ils sont OK, ils sont favorables, parce que aujourd'hui, personne ne peut expliquer pourquoi, comment, mais il y a un impact positif. Donc, tant que, c'est toujours le deal, hein, je suis toujours sur ce même deal, tant que ma santé à côté, après j'avais la chance d'être en bonne santé à côté, même si c'est un peu naze de dire ça comme ça, mais oui, j'ai une sclérose en plaques, mais à côté, je suis en très bonne santé. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui permet de me faire récupérer aussi plus vite. Mais il n'y a pas vraiment de dialogue. Ils surveillent, voilà, les bilans, tout ça, mais il n'y a jamais vraiment d'échange de fond,
ouais,
par rapport à ça. Voilà, on en est toujours à pas manger de sucre, c'est anti-inflammatoire, donc forcément, ça aide sur les périodes inflammatoires, mais il n'y a pas de lien. Et moi, je ne suis pas médecin, donc je me refuse, tu vois, à dire sur les réseaux, mange le keto, ça va aller mieux. Non, après, j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, puisque j'ai des sépiens qui me suivent, qui sont en keto, et qui ont des effets positifs, ou d'autres pathologies chroniques, des gens qui ont même inversé des maladies du foie gras,
ouais,
en mangeant keto.
Ben
oui. C'est complètement le non-sens de base. Mais... Donc, il y a plein de témoignages en ce sens, mais c'est vrai que le corps médical n'en parle pas. Là où dans d'autres pays, comme la Belgique ou l'Allemagne, c'est complètement courant.
Ouais, mais d'un autre côté, quand on connaît un peu le foie gras, quand on regarde un peu comment ça se passe, on comprend que pourquoi. C'est ça qui est paradoxal, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens confondent quand on n'a pas les connaissances entre le gras et tout, et ne se rendent pas compte que, en fait, ça fait partie des maladies comme ça qui viennent des glucides, du sucre, et de cette quantité de sucre trop importante, que c'est difficile, hein, de s'en débarrasser. Hein. Franchement, sincèrement, pour avoir des gens qu'on a accompagné des gens dans ce domaine, c'est super difficile d'en changer. Mais on voit vraiment qu'il y a une histoire sur les glucides qui a joué et qui est très compliqué. Hein. On vit dans un monde, tu disais, quand tu as commencé à lister tous les aliments que tu mangeais, c'est super compliqué, hein, de s'extraire de ce fonctionnement-là dans lequel on a grandi. Quoi.
C'est très difficile, ce qui est très très difficile, et notamment sur la course aussi, sur l'alimentation d'un sportif. Là, mon mari a fait semi-marathon hier, il prépare le marathon. Et trois jours avant le semi, le mercredi ou le mardi, il me dit « Bon, moi, du coup, lui, là, c'est pas tous les soirs. » Et quand on va courir, c'est « Allez, 10 km, là, son petit machin de glucides, son truc. Mais tu manges pas, mais tu bois pas. » Non, moi, ça va. Enfin, moi, j'ai ma source de carburant. C'est moi-même, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de méconnaissance, en fait, sur le sujet. Et c'est dommage. C'est dommage, vraiment.
Ouais.
Ça pourrait aider beaucoup de gens.
Mais c'est pour ça que j'avais invité Olivier Maria, le Cap Frenchy, sur Sport Nutrition.
Parce
que, justement, comment est-ce qu'il est capable de courir un marathon en moins de 3 heures sans manger? Ça surprend tout le monde.
C'est un fou, lui.
C'est un fou. Des fois, je raconte le fait qu'il mange des plaquettes de beurre dans des courses de vélo et les gens, ils comprennent pas le truc. Mais c'est vrai que après, il faut lire le livre. Il y a des expérimentations. Et
exactement.
On voit aussi que les recherches sont en cours, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est pas figé, dans lequel il y a beaucoup de recherches. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont figées, mais il y a énormément de recherches qui peuvent être faites et peut-être qui sont peut-être pas faites d'ailleurs, parce que toi, quand tu me parles de ça, moi je me dis, mais des chercheurs dans ce domaine-là, il y aurait des pistes d'évolution, parce qu'on sait à quel point l'alimentation elle joue sur
tellement de choses. Il y en a eu aux États-Unis.
Ouais.
Il y a eu une expérience qui a été faite aux États-Unis, c'était il y a l'année dernière, en 2022, une étude a été publiée, une étude scientifique. Sur l'alimentation cétogène, sur des sépiens, et il en est ressorti que le groupe qui mangeait cétogène se sentait mieux, notamment sur le quotidien.
Ouais.
C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas si c'est les médicaments qui font ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup de troubles psychologiques, de troubles de bipolarité, de dépression,
ouais,
sur la cèpe. Et en fait, les gens qui mangeaient cétogène, en fait, il a été mis en avant qu'il n'y avait pas du tout les mêmes effets que les gens qui ne mangeaient pas. Donc, ça avance quand même.
Ouais.
Moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond. Waouh! Mais ce n'est pas encore dans le cœur des recherches, je pense.
Oui, puis il y a des choses qu'on ne voit pas aussi hein, dans les chercheurs. Ça met du temps, les recherches. Il faut trouver des groupes témoins et tout. L'an dernier, j'ai fait un épisode, tu sais, sur l'endométriose. Et c'est l'impact du sport sur l'endométriose. À se rendre compte que finalement, c'est à quel point le sport pouvait améliorer hein, le mouvement. Et ça ne veut pas dire de faire des grands trucs sportifs avec beaucoup d'intensité, d'ailleurs. Vous pouvez revenir sur l'épisode. Mais c'était très intéressant, justement, de voir qu'il faut des études, il faut avoir des cas, il faut remonter des gens pour trouver des cas et pour essayer de trouver un petit peu ce qui peut se passer et mettre des protocoles. Donc ça met du temps en fait, hein, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que la recherche montre qu'il y a, en fait, on a l'impression qu'on sait plein de choses et on se rend compte qu'il y a plein de trucs encore à découvrir. Et on parlait du cétogène, on parlait du sport, les liens entre le sport, entre ta maladie, entre l'alimentation, entre tout ça, le mental, toutes ces imbrications. C'est aussi un élément, on se dit, mais il y a des milliers de tiroirs qui doivent s'ouvrir pour des gens qui font des recherches pour se demander comment on peut améliorer la vie des gens comme toi qui souffrent de ces maladies.
Tu en viens toi-même à faire des recherches, en fait, sans que. Moi, j'ai jamais été une fanat de science, hein, mais alors vraiment pas, hein, vraiment cursus littéraire. Pourtant, j'ai bossé 20 ans dans la banque, donc c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai jamais été scientifique. Les bouquins scientifiques, ça me saoule. Moi, j'ai beaucoup appris quand j'ai lu le livre de Jason Fried, Les lois de l'obésité, où là, j'ai vraiment compris déjà de base, sans se coller au keto, hein, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un métabolisme de base?
Ouais.
Juste ça, en fait. Alors que toi, depuis 20 ans, Virginie, tu bousilles ton métabolisme de base à réduire les calories et à vraiment faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Je lis ce livre et je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Ça a vraiment été une révélation pour moi de, OK, mon corps, il fonctionne comme ça. Maintenant, on va écouter mon corps. Et c'est vachement ce que je fais dans le sport. En fait, parce que les gens me disent souvent, mais comment est-ce que tu sais que tu es en cétose? Parce que je ne me teste pas. J'ai toujours refusé d'avoir ces petits appareils chez moi, parce que je ne veux pas en dépendre. Donc, je vais tester chez mon médecin quand j'y vais. Mais chez moi, j'en ai pas. Mais je le sens tout de suite quand je suis en cétose. Quand je suis sur un tapis de course ou vouloir en train de courir, cétose, pas cétose, je le sens parce que je connais mon corps maintenant. Je l'écoute, en fait. Ou avant, on n'avait rien à faire de mon corps, sinon de rentrer dans une taille 28. Ouais. C'était ça, en fait, mon objectif. Alors que là, l'objectif, c'est pour ça que je ne pourrais jamais renier cette alimentation cétogène, parce que pour moi, l'objectif, c'est pas. L'intérêt, il a été double. Dès lors que je perdais du poids, oui, mais quand j'ai compris l'impact que ça allait avoir sur le reste de ma vie, forcément, l'intérêt, il est plus vers cet axe-là de santé, de sport, parce que finalement, ça bouge. Pour le reste.
Ouais. Et tu disais, c'est vrai que le livre que tu citais, il y a beaucoup de culture du régime qui s'est installée depuis des décennies et qui fait des ravages énormes hein, avec des gens qui se privent de manger, qui a une quantité de calories qui est tellement faible que ça en vient justement à repartir dans l'autre sens, à provoquer de l'obésité alors qu'on cherche à tout prix à la fuir. Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on est totalement déconnecté. Et tu le disais, hein, moi c'est un débat qu'on a souvent en famille, c'est la notion de satiété. Qu'il y a plein de gens, et puis tu sais, alors moi je t'ai éduqué dans finis ton assiette, tu vas pas laisser traîner ça dans ton assiette, etc. Alors ça, on l'a abordé, mais qui a fait un ravage, mais des ravages pas possibles. Et je me bats des fois avec ma mère, tu sais, à 10 ans, et avec ma fille, elle dit, mais finis ton assiette, tu vas pas laisser ça. Je dis, mais si elle a plus faim, écoute-la, quoi, juste ça. Et ça, on l'avait totalement oublié, en fait, cette histoire.
C'est complètement ça. C'est toute une éducation, et c'est pas facile hein, quand tu dois détricoter tout ça. Moi, je me rappelle la première semaine quand j'ai commencé, j'ai mangé 3 raclettes, bon, 100 pommes de terre, mais j'ai mangé 3 raclettes, et à la fin de la première semaine, parce que moi, j'ai commencé le keto sur un pari, ouais. À la base. C'était un collègue, c'était un pari complet d'arrêter le sucre pendant une semaine. Et quand à la fin de la semaine, je me suis pesé 3 raclettes dans la semaine, moins 2,5 kg, je me dis, attends, il y a un truc quand même là, c'est quoi ce délire? Bon, avec le recul, je me rends compte que c'était de la flotte. Voilà, c'est tout. Mais forcément, j'ai acheté le livre. Ah, forcément, j'ai acheté le livre et forcément, j'ai commencé à faire mes recherches aussi et en parler et à chercher. J'ai beaucoup lu. Ça, je pense que c'est ce qui m'a aussi ouvert sur le fait que ça ne convient pas à tout le monde, mais que ça a le mérite, en tout cas, de faire naître des prises de conscience, de sortir de cette conscience collective-là. Et de s'élever vers quelque chose qui finalement nous correspond, même si ça ne rentre pas dans les cases. Et c'est ça que moi j'adore. J'adore courir avec une sclérose en plaques, parce que du coup, je ne rentre pas dans les cases. C'est ça mon truc, en fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent, c'est qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte.
Elle est très bonne, celle-là.
Tu vois, et moi, je n'aime pas la tarte. Voilà. Donc, c'est une ligne de conduite. Et je trouve ça chouette, en fait, de sortir des cases, justement.
Ouais. Bah, en tout cas, tu nous l'as bien montré. Donc, on a compris ton objectif de course 20 km de Paris. T'en as d'autres intermédiaires ou t'as des...
Alors, non. Là, en fait, je voulais m'inscrire sur des courses plus officielles de 10 km. Mais en fait, là, je me mise tout vraiment sur les examens de juin. On a compris que c'était important pour moi. Donc, vraiment, de me construire une santé, parce que je me dis, imagine, je fais une course, 10 km, et finalement, ça se passe pas bien, et que ça me replonge dedans. Voilà. Donc, vraiment, là, j'ai arrivé à fond, parce que je veux vraiment le semi 2025. C'est vraiment pour moi, c'est après les 20 km de Paris, le semi 2025, et le Graal, pour moi, ce serait de faire le semi marathon de Lisbonne, parce que ça me tient à cœur. Et tant que je l'aurai pas celui-là, après je verrai. Mais pour moi, en fait, de courir, c'est pas tant de passer une ligne officielle qui fait que t'es un coureur. Pour moi, c'est juste lever ton cul du canapé pour aller courir, même si tu fais que 5 km, pour moi, t'es pas un coureur. Donc du coup, le fait de pas faire plusieurs de 15 dossards l'année, tu vois, ça va pas je le fais pas pour ça. Je le fais pas pour la gloire, je le fais pas pour les médailles. Je le fais pour moi. C'est moi avec moi. Et ça me suffit bien.
Et j'ai quand même une question, parce que tout à l'heure tu parlais de ton mari qui a rempli les stocks de glycogène. Quand il remplit les stocks de glycogène et que toi à côté tu manges chez toi, ça doit pas être simple le repas là.
Bah si, parce que bon là ça fait 6 ans quand même. Donc, alors il y a des phases comme ça où il se met en keto. où il va se mettre en keto. Mais il aime bien parce que tu vois, il aime bien quand même le keto en termes de plats salés, ça reste des produits bruts. Manger des légumes avec du beurre, c'est toujours quand même plus sympa que de manger des légumes vapeur, on va pas se mentir. Ou même les enfants, hein, moi je leur fais découvrir les épinards, les choux de Bruxelles, tout ce qu'ils aimaient pas avant, ça passe crème maintenant. Donc non mais là il est effectivement tu vois, il a ses petites là pour le semi, il avait sa petite pâte de fruits. Il a ses petits trucs comme ça. Il mange ses féculents 3 jours avant. Il m'avait fait un texto. Hein. Pas en face à face, mais un petit texto. C'est ça serait bien que ce soir, ça serait pâte, riz, pommes de terre. Moi, je le fais. Moi, ça ne me fait pas envie. Donc, je le fais aisément. Tu vois, ça ne me demande pas une charge de travail en plus. Et là, j'imagine le marathon. Le marathon, ça va être quelque chose dans 20 mois. Donc, je le soutiens comme lui me soutient aussi dans l'autre sens.
Ouais, mais c'est vrai que, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des fameuses glucides, mais c'est vrai que sur l'alimentation sportive, ça tient une place qui est tellement importante, et c'est pour ça que j'avais invité Olivier aussi, c'était de dire, il y a d'autres modes de pensée, mais il faut tout revoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mode de pensée, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment un mode de pensée, de se dire qu'on peut penser différemment, mais déjà, je pense que même penser différemment, pour toi, de dire, je peux courir, alors que tu as la sclérose en plaques, que tu souffres comme ça, et qu'il y a des moments où tu étais... tu étais même paralysé, c'est déjà penser différemment, de se dire je peux le faire, manger keto et tout. Mais tu vois, il y a des choses. Tout à l'heure, tu parlais des pommes de terre, de la raclette, tu as mangé de la raclette sans pommes de terre. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. C'est interdit, la pomme de terre, quand tu es en keto.
Tout à fait. Mais les champignons de Paris, c'est très bien aussi. Champignons de Paris à la poêle, un peu de sel, un peu d'ail, et hop, tu mets ton fromage fort dessus. Et en plus, tu sortiras de ta raclette, ben, tu seras nickel au niveau du vent. Tu peux aller courir un 10 km après. Pas de problème. Donc, non, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes effets. Mais c'est vrai que moi, je le vois même avec, tu sais, les petits gels là, que tu prends, plein de sucre, bourré de glucides, ouais, pour quand tu vois la compo. Alors, il me dit, ouais, c'est trop bien, j'en ai trouvé un, il y a, je sais pas, 78 grammes de glucides, c'est trop bien, ça va me booster, là, quand je serai à 20 km et tout. Et je regarde la compo, je dis, ouais, la compo, c'est pas super propre, quoi. Tu vois, c'est des sources de sucre qui sont pas top, quoi. Donc c'est une autre façon de penser.
C'est une autre façon de penser. T'as raison, c'est une autre façon de penser. Qui peut être compliquée, c'est vrai. Hein, il y a des aliments. Je pense qu'il y a des aliments. Je ne sais pas si tu t'es posé la question de se dire, mais est-ce que je peux vraiment en passer quand on a tellement l'habitude. Tu vois, et tout à l'heure, on parlait, ton mari, avant une course, tu dis, bon, les pâtes. Mais les pâtes aussi, tu ne peux pas les manger.
Non. Alors, les pâtes, c'est vraiment le truc qui ne m'a jamais posé de soucis. Parce que mon beau-père, on va quand même l'appeler comme ça, elle est exploitant agricole. Et j'ai eu une grosse explication avec lui sur le blé, justement, et j'ai compris avec lui, c'est un puits de science, et j'ai compris que le blé, en fait, était le produit finalement le plus transformé du monde. On ne se rend pas compte, mais on a rarement vu pousser des champs de coquillettes en plein soleil dans la Sarthe. On est bien d'accord. Pour que ça devienne des coquillettes, c'est ultra transformé et c'est pas super bon pour la santé. J'avais eu ce débat en live avec une diététicienne qui me certifiait que le blé, c'était vraiment une super bonne source de glucides. Puis, ne dites pas ça, en fait, c'est un produit ultra transformé. Donc, il y a des sources de glucides qui sont même peut-être plus saines que ça, avec le gluten, avec tout ce que ça entraîne. Donc, les pâtes, ça m'a jamais manqué. Le seul truc où ça a été compliqué, mais vraiment pour moi, c'est-à-dire que je les voyais dans la rue, je voyais les gens en forme de baguette tradition.
Ah.
Au début, j'ai eu énormément de mal sur la baguette. Et en plus, je vivais au-dessus d'une boulangerie.
Aïe.
Voilà. Ça a été très compliqué pour moi, mais finalement, c'est passé.
Ouais. Mais alors, en fond aussi, il y a un autre truc aussi, tu en as un petit peu parlé quand même, c'est la cuisine, c'est de fuir l'ultra-transformation, de savoir ce que tu mets dedans. C'est un peu le thème sous-jacent, en fait, qui revient un petit peu quand on sort de ce moule, en fait. Hein, c'est de dire, si je veux manger par rapport à certaines prescriptions, je sais pas comment le dire, hein, pas médicales, mais en tout cas, selon certaines règles, il y a un moment donné, il faut quand même revenir en cuisine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je vais me nourrir qu'avec les trucs restaurants, plats préparés, etc. Il y a un moment donné, il faut revenir en cuisine et aller chercher du brut, quoi.
Ouais, mais ça apprend aussi cette notion de responsabilisation qui manque beaucoup. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout le cadre des régimes, dans ce que tu vois, en tout cas, passer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il peut y avoir un problème de responsabilité sur les messages qui sont délivrés par les professionnels, par les influenceurs, comme on les appelle. Et il y a aussi un problème de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on va aller à la facilité et que de toute façon, si je suis gros, si j'arrive pas à avoir ces performances sportives, c'est à cause des industriels parce que il y a ça. Et je trouve qu'il y a un vrai problème de responsabilisation par rapport à ça. On accuse la terre entière et la société de tous les maux, alors que finalement, c'est un peu à notre portée, quoi. Enfin, le preneur du coin, moi, je vois, ça ne prend pas forcément plus de temps, en plus, hein. Et alors, Dieu sait que je suis la reine de la non-organisation. C'est-à-dire, j'ai une vie super active, j'ai 3 enfants, et chez moi, c'est le bordel. Le bordel organisationnel, hein, j'entends. Mais à 19h30, c'est « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Voilà, et ça ne prend pas plus de temps. De cuisiner des légumes, en fait, sains, plutôt que de prendre des boîtes de conserve. Il y a souvent du sucre dans les boîtes de conserve, variété. Ou de faire effectivement des choses, des produits bruts, plutôt que d'aller chercher du Picard, même s'il va aussi chercher du Picard, parce que voilà, ça arrive. Mais tout ce qui est gâteau, brioche, quand même des choses comme ça, de les faire soi-même, en fait, ça change quand même. Alors, je veux dire, prenez juste un paquet de pain de mie et regardez juste les ingrédients, c'est flippant.
Non, faut pas regarder ça.
Il faut pas
Faut
regarder,
pas,
non,
enfin,
vraiment,
faut
faut
pas
vraiment
prendre le
pas
paquet,
regarder.
faut pas prendre le paquet, faut le laisser dans le rayon.
C'est ça.
Mais j'avais une dernière question sur la course. Tu disais ça te résout des problèmes et tout, des choses comme ça. Tu pourrais t'imaginer maintenant ne pas courir. Ta vie sans course.
Non. Non. Non, mais fais pas peur.
Non, mais je veux pas te faire peur. Moi, je t'encourage. Moi, tu vois, si je pouvais t'encourager sur ton semi-marathon l'an prochain et tout, je viendrais avec volontiers, tu vois.
Ouais, c'est gentil. Non, je peux pas, je peux pas. Parce que si j'arrête de courir, c'est qu'à un moment ou un autre, j'ai perdu le contrôle de la danse. Et là, en fait, en ce moment, j'écris là-dessus, sur cette danse, justement. Et je me rends compte à quel point c'est devenu important, que ce soit la course ou le sport, dans sa globalité, parce que j'ai aussi appris à aimer le renforcement, la musculation, tout ce que je peux faire à côté. J'ai appris à aimer tout ça parce que justement, ça me donne le contrôle et ça me donne le pouvoir. Et j'ai pas bossé autant de m'accorder cette permission à le reprendre, justement, parce que c'est pas facile, de justement se donner la permission de. J'ai pas autant bossé pour tout envoyer valser comme ça et de plus. Non. Je m'imagine pas 2 secondes raccrocher les baskets.
Bon, écoute, hein, tout ce qu'on te souhaite, de toute façon, c'est que tu continues à courir, que tu arrives à atteindre. Déjà, courir ce fameux 20 km de Paris, puis
Ouais.
semi, Lisbonne, on a bien compris l'importance que ça a
Oui.
à ton cœur et tout. J'ai une dernière question qui est un peu alimentaire. C'est, est-ce que tu as découvert que tu avais un aliment qui était avec le cétogène, qui était super bien, tu vois, qui collait bien et tout, mais que tu n'aurais peut-être pas mangé si tu n'avais pas été céto?
Alors, la petite histoire drôle, c'est que avant de manger cétogène, j'étais ce que j'appelais, c'est un mot qui n'existe pas. Attention, j'invente un mot. J'étais choufleurophobe. C'est-à-dire, je voyais un choufleur sur l'étal du primeur, je vomissais mes tripes. Littéralement. Je pouvais pas le voir. Depuis que je suis cétogène, j'en mange plusieurs fois par semaine et je trouve ça super bon. Donc, du coup, sous forme de risotto, de purée, de. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un truc, ça a été une révélation. Après, sur les bons aliments, on en parlait tout au début, parce que tu m'as dit, tu manges du gras, et je t'ai dit, non, je mange pas du gras. Pour manger du gras, je mange du bon gras. Donc, j'ai découvert effectivement le pouvoir des œufs. J'en ai eu très, très peur pendant très, très longtemps, au cholestérol. Et pareil, toujours, encore une fois, croyance. Moi, j'ai été élevée comme ça. Il faut pas manger trop d'œufs parce que sinon tu vas développer du cholestérol. Aujourd'hui, je mange 24 œufs par semaine. Tout va bien, les gars. Je vais bien. Les œufs, et puis on se rend pas compte, tous les acides aminés qu'il y a dans les œufs, toutes les valeurs nutritionnelles qu'il y a dans un œuf. Voilà. On va le diaboliser alors qu'en fait, pour moi, c'est presque un super aliment. Si on en a une consommation bien sûr raisonnée par rapport à son alimentation globale, c'est toujours pareil en fait. C'est la quantité raisonnée de tout que tu manges qui va faire la globalité de la qualité de ce que tu manges. Donc ouais, les œufs, après l'avocat, les oléagineux, l'huile d'olive. Je suis une amoureuse forcément de par mes origines portugaises de l'huile d'olive. Tout ça, on les a trop diabolisés alors que finalement. Et on se penche sur chacun de ces aliments, on se rend compte de la valeur nutritionnelle hyper sympa à chaque fois, et qui fait du bien à la santé, plutôt que de manger des Kellogg's.
Ouais. C'est une très belle conclusion. Et puis les œufs, non mais t'as raison, les œufs, faut vraiment en parler parce que on se rend compte que même il y a peut-être des maladies qui se développeraient si on mange pas assez d'œufs, hein, parce que bah, il y a des choses dans les œufs qui nourrissent le cerveau, hein, faut pas oublier. Et ouais, on les a beaucoup diabolisés, on a beaucoup diabolisé beaucoup d'aliments, hein, d'ailleurs quasiment toute l'alimentation a été
Le beurre.
diabolisée, le beurre.
Le beurre. Le beurre a été diabolisé. Moi, je me rappelle d'une vidéo que j'ai quand j'étais adolescente de ma grand-mère qui a commencé à acheter de la margarine. Parce que mon soi-disant, mon grand-père avait des problèmes de cœur. Tu regardes les ingrédients d'une margarine, il y en a 12 dedans. Et, je suis désolée, le beurre, c'est... Non, mais c'est vrai ou pas? Le beurre, c'est simplement du beurre et enfin, c'est de la crème, quoi. Tu vois? Dans une margarine, tu as 12 ingrédients. Parce que les produits allégés, on va te vendre ça à 0% de matière grasse, donc c'est cool. On t'enlève le gras, mais pour donner du goût, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va te rajouter du sucre. Donc, tu te retrouves avec finalement un aliment qui est tout aussi calorique, mais vide de nutriments. C'est complètement. On se marche sur la tête, on est d'accord?
Ouais.
Voilà.
C'est marketing. Bref, bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'était super cool. Et puis,
Merci à toi.
c'était cool déjà d'avoir répondu à mon appel sur la course parce que tu vois que tu nous partages ce que ça représente pour toi et ce changement de vie qui est tellement important. C'est tellement chouette d'avoir aussi sous tes messages. Et pour ça, tu vois, je pressentais que tu avais des jolis trucs à nous partager. Et je te remercie beaucoup
Merci,
de
c'est
les avoir
gentil.
partagés. Je vais te laisser te donner le, puis je mettrai en lien de l'épisode, le nom de ton blog. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tu vois, pour voir un petit peu tout ça et la fameuse recette là des gâteaux.
Le gâteau de la savane?
Ouais.
Là, ah, tu veux que je le dise là, d'accord?
Oui.
Oui. Alors, en fait, mon blog, sur les réseaux, y a une story permanente, de toute façon, avec le lien du blog. Mais le blog, c'est tout simple, c'est tout attaché, c'est tovi.fr. Donc, du coup, il y a des recettes salées, des recettes sucrées. Il y a quelques articles, en fait, que j'appelle les articles papotes, où je raconte un peu. Voilà, il y a notamment cet article très drôle sur le fait de voir des gens en pain dans la rue quand j'ai commencé le keto. Il y a le livre aussi qui est sorti en août, fin août 2022, et qui, en fait, décomplexifie l'alimentation cétogène par la keto, la trifouline de la sphère keto d'Instagram, puisqu'effectivement, jamais compté de macro, toute ma famille mange keto, que ce soit salé, sucré, avec des recettes très simples, et de déculpabiliser, en fait, les gens par rapport au fait de manger du gras, parce que ça peut être aussi sympa si ça s'adapte effectivement dans le cadre de ton quotidien, bien entendu. Voilà. Donc, c'était un livre que je voulais très, très proche de ce que je suis sur les réseaux et ce que j'ai toujours été, en fait, finalement, un peu sans prise de tête. Voilà.
Et tu sais, je connaissais un chef cuisinier qui disait le gras, c'est la vie. Mais alors, toi,
Mais
c'est encore tellement valable.
ouais. Mais tu sais, pour la petite histoire sur les réseaux, mon pseudo, au départ, c'était Fétovie sans E. C'est parce que mon prénom, c'est Virginie. Et quand ça a changé ma vie, je l'ai laissé Fétovie et j'ai rajouté le E à vie. Et je l'avais expliqué ça sur les réseaux, pourquoi j'avais changé l'orthographe du pseudo Instagram. Parce que pour moi, ça a changé ma vie
Ouais.
et la vie de toutes les personnes autour de moi, enfin, de ma famille. Je n'ai pas changé la vie de tout le monde, mais en tout cas, ma famille proche, qui m'ont vu, voilà, dans des périodes sombres, y compris mes enfants, ça a changé notre vie et j'ai changé de ce fait mon pseudo. Donc
Voilà.
oui, le gras a changé ma vie.
Le gras a changé ta vie, le sport a changé ta vie, la course a changé ta vie,
C'est ça.
ton quotidien. Bah écoute, c'est un beau message. Moi, bien sûr, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode parce que j'ai retrouvé le blog, bien entendu, ton compte Instagram, le lien vers le livre, etc. Donc, je mettrai tous les liens. Vous regardez dans les notes de l'épisode pour le retrouver. Je te remercie beaucoup.
Merci à toi de m'avoir donné la parole
Ouais.
et de m'avoir fait confiance parce que j'étais pas confiante.
Ouais. Je t'ai senti un peu fragile, mais dans les discussions. Et attends, c'est la preuve. Et j'ai jamais mangé personne encore, tu vois, hein, sur le truc. Et surtout, c'est que en fait, on a tous chacun des histoires, des bouts de choses à partager, à raconter. Et je sais que ce que tu partages, ça fera écho. Et ça permet aussi de faire écho à des anciens épisodes, parce qu'on a parlé de la CEP, on a parlé de la team Ruban Bleu, que j'avais invité aussi pour parler un petit peu de ça. Mais aussi tout un tas de maladies, de choses comme ça, où on se rend compte à chaque fois qu'il y a toujours l'alimentation et le sport, que ce mélange, et si on rajoute le mental, ce mélange-là, ça donne quand même de sacrés résultats, et qu'on l'a totalement zappé, parce qu'on s'est peut-être reporté sur la recherche d'une pilule magique ou de solutions un peu magiques, etc. Et que quand on creuse un petit peu dans les livres, tu as parlé de certains livres. Moi, j'ai toujours été marqué par un livre, tu sais, de John Sarno sur les mots comme quoi les mots de la tête provoquaient des douleurs, des blessures, etc. Ça m'a vraiment extrêmement marqué quand j'ai souffert de ma sciatique, ma hernie et tout. Que je crois que en fait, on a tous chacun dans des histoires à les piocher comme ça et que ben
on se rend compte qu'en fait, il y a des trucs qui paraissent, il faut sortir du cadre, mais en fait, ça permet aussi de réfléchir différemment à ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est plus important.
Sortir du moule, c'est ça, voilà. Pour pas ressembler à une pâte.
Voilà, et eh bien écoute.
Sortir du moule.
Et eh bien grâce à toi, nous allons éviter de ressembler à des tartes. merci encore beaucoup pour le partage, pour ta bonne humeur et tout, puis pour tout ce partage. Bien entendu, je le répète, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis bien sûr, tout le reste de la semaine pour les épisodes intermédiaires. Je n'ai pas le nom de l'invité, donc je ne sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, mais continuera à bouger et s'entretenir pour bien vieillir. Et c'est tout ce que je te souhaite, bien vieillir, arriver à remplir tous tes objectifs et que tu arrives à courir la course qui te fait tant envie. Et on l'a compris. Et on suivra ça avec... moi, je t'encouragerais, tu vois, si je pouvais être là sur le bord de la route,
si je le ferais avec plaisir. Si tu gagnes, je reviendrai, je vous montrerai la
médaille. montrera la médaille. Et je te souhaite que l'an prochain, tu ne sois pas frustré en regardant les autres coureurs le semi-marathon de Paris, que toi aussi, tu vois, tu puisses être dans la course et non pas sur le bord de la course. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Parce qu'on a bien compris la place du sport, et on a parlé beaucoup d'alimentation, mais aussi la place du sport, de la course, que ça jouait dans ta vie. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et j'espère que voilà, que chacun puisse y trouver un petit message et notamment forcément spécialement pour moi, pour les sépiens, parce que c'est une maladie qui touche les jeunes principalement, les jeunes adultes, et non, votre vie n'est pas finie. Voilà, la vie c'est ce qu'on a fait.
Merci beaucoup, ciao ciao.
Merci à toi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.